Alexandre Dumas, Les grands hommes en robe de chambre. Octave Auguste. Chapitre 1er. Nous avons dit dans notre étude sur César que, dans son testament remis à la première Vestale, César avait institué pour ses héritiers trois arrière-neveux. Le premier était Octavius, le second était Lucius Pennarius et le troisième Quintus Pedius. Octavius, ou plutôt Octave, adoptant la terminaison francisée de ce nom, Octave, le plus aimé des trois, et quelques-uns cherchaient à cet amour une cause infâme, avait à lui seul les trois quarts de la succession. Les deux derniers en avaient chacun un huitième, ce qui complétait l'autre quart. Octave avait rejoint et accompagné son oncle dans son expédition d'Espagne contre les fils de Pompée et était revenu dans le même char que lui. Seulement, lorsqu'Antoine, qui allait au-devant de César, eut rejoint le vainqueur, Octave leur laissa les deux places de devant et se tint modestement derrière avec Brutus Albinus. Si nous n'admettons pas que l'amour de l'oncle pour le neveu est la cause que lui reproche Antoine et que cite Suétone avec sa cynique insouciance, nous dirons que cet amour venait tout simplement de la grande tendresse que César avait eue d'abord pour Julie, sa sœur, puis pour Attia, fille de Julie et mère d'Octave. Ajoutez que celui-ci, à peine relevé d'une grande maladie, cet homme qui devait vivre 76 ans, avait toujours été d'une santé faible. Ajoutez que celui-ci, à peine relevé d'une grande maladie, avec une faible escorte, par une route infestée d'ennemis, après avoir fait naufrage, avait, comme nous l'avons dit, rejoint César en Espagne, et cela au moment où beaucoup doutaient de la fortune du dictateur. Il en résulta qu'à son retour à Rome, César, ne croyant rien pouvoir faire de trop pour un si bon neveu, l'envoya étudier à Apollonie. C'était l'habitude, on se le rappelle, que les jeunes Romains de distinction allassent étudier les lettres grecques en Grèce. César avait longtemps demeuré à Rhodes. Au reste, si l'on en croit Suétone, César n'avait point de sacrifice d'argent à faire pour son neveu. La famille d'Octave était plus riche que noble, quoiqu'elle se vantât d'avoir été agrégée par Tarquin l'Ancien à la classe inférieure du Sénat et d'avoir été élevée au patriciat par Servius Tullius. Le fait est qu'elle était redevenue plébéienne et que César, tout dictateur omnipotent qu'il était, eut grande peine à la rétablir dans sa dignité première. C'est qu'il y a une chose qu'on ne crée pas, l'Antiquité. Les rois peuvent faire des princes, les empereurs peuvent faire des rois, mais ni les uns ni les autres ne peuvent pas faire des gentilshommes. Aussi, toute cette jeune aristocratie, dont la noblesse n'était pas discutée, traitait-elle fort mal Octave. « Ta mère, lui disait-elle, vendait de la farine au moulin d'Aricie, et ton père la pétrissait avec des mains encore noires de l'argent qu'il maniait à Nérulum. » Voyons ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ce reproche. Il y avait d'abord un parti moyen à prendre. Peut-être la famille d'Octave n'était-elle pas si ancienne que le disait César. Mais peut-être aussi n'était-elle pas si infime que le prétendait Antoine, ce prétendu descendant d'Hercule. Le fait est qu'il y avait à Velletri, longtemps avant la naissance d'Octave, un quartier appelé le quartier Octavien. On y montrait un hôtel consacré à un homme du nom d'Octavius. Cet Octavius, ancêtre du nôtre, commandait dans une guerre contre un peuple voisin. Averti au milieu d'un sacrifice qu'il était occupé à faire d'une invasion subite des ennemis, il avait enlevé du feu les chairs de la victime à moitié rôties, les avait distribuées selon la coutume, avait couru au combat et était revenu triomphant. Un décret public ordonnait même de faire tous les ans un sacrifice à Mars dans la même forme et adjuger aux Octaviens les restes de la victime. C'était déjà plus que de la tradition, on le voit, c'était presque de l'histoire. Maintenant, voici ce qui était incontestable. Le premier des Octaviens, qui fut honoré d'une magistrature par les suffrages du peuple, était un certain Rufus. Il avait été questeur, avait laissé deux fils, Cneius et Caius, qui avaient formé deux branches de la famille Octavia, mais, dit Suétone, avec des destinées bien différentes. Cneius et ses descendants furent élevés aux plus hautes charges de l'État. Caius et sa postérité, au contraire, soit fatalité, soit inclination, demeurèrent dans l'ordre des chevaliers jusqu'au père d'Auguste. Or, qui disait chevalier à Rome, disait banquier, et qui disait banquier disait usurier. Qui disait usurier disait naturellement voleur, dans un pays où le taux légal était de 12%. Octave lui-même, lorsqu'il fut devenu Auguste, c'est-à-dire le fils des circonstances et de son génie qui les avait dirigés, Octave avoua, avec cette bonhomie qui n'appartenait qu'à lui, qu'il n'était que de race chevalière, ancienne et riche, il est vrai, mais que son père était le premier sénateur de son nom. Antoine lui reprochait d'avoir eu parmi ses ancêtres un certain affranchi nommé Restion de Thurium. Mais il ne faut pas plus croire tout ce qu'Antoine dit d'Octave que tout ce que Cicéron dit d'Antoine. Cependant, l'accusation a une certaine gravité corroborée de ce fait, c'est que, dans sa jeunesse, on appelait Octave Turinus. Il est vrai que cela pouvait être parce que son père avait eu des succès dans le pays de Thurium. C'est ainsi que l'expliquait du moins la famille. Il est vrai que les ennemis de la famille s'en tenaient au dire d'Antoine. La question paraît si obscure à Suétone qu'il ne la décide pas. Il se contente de dire qu'Octave a porté ce surnom de Turinus, ce qu'il affirme d'après une petite médaille d'airain qu'il a trouvée et sur laquelle Octave est représenté encore enfant avec ce surnom, dont les caractères sont presque effacés par la rouille. Suétone avait fait présent de cette médaille à l'empereur Adrien, dont il était secrétaire. On sait qu'il perdit cette place pour avoir pris certaines libertés avec l'impératrice Sabine, que son auguste époux empoisonna et mit ensuite au rang des déesses. Ce pauvre Adrien, il faut bien lui pardonner quelque chose, il aimait tant Antinous. Revenons à notre Octave. Son père Octavius, celui qu'on accusait de pétrir la farine avec des mains encore noircies de l'argent de Nérulum, avait en effet commencé, à ce que disaient les mauvaises langues de Rome, par être changeur et même courtier, ce qui, de riche qu'il était déjà par son patrimoine, l'avait rendu millionnaire. À Rome, où l'on était tour à tour avocat, magistrat et général, une large carrière était ouverte à chacun, personne n'ayant de spécialité. On se rappelle que Cicéron écrivait à César « Cicéron impérator, à César impérator ». Notre courtier fut nommé prêteur, puis gouverneur de la Macédoine. N'était-ce point curieux de voir le royaume d'Alexandre le Grand gouverné par un homme à qui ses ennemis reprochaient d'être le fils d'un Africain, ayant tenu à Aricie boutique de parfumeur et de boulanger, et d'avoir été lui-même courtier, changeur et meunier? Enfin, les choses étaient ainsi, il faut donc prendre les choses comme elles étaient. Pour se rendre en Macédoine, le père d'Octave devait passer par le pays de Thurium. Le Sénat le chargea, en passant, de détruire le reste des brigands qui avaient suivi Catilina et Spartacus, commission qu'il remplit à la grande satisfaction du Sénat. Une fois arrivé en Macédoine, il gouverna la province avec autant d'équité que de courage, gagna une bataille contre les Besses et les Thraces, et traita si bien les alliés du peuple romain que Cicéron, dans ses lettres, exhorte son frère Quintus, alors proconsul en Asie, à se faire aimer des alliés de la République comme son voisin Octavius. Ce qui nous prouve en passant que le frère de Cicéron était lui médiocrement aimé. À son retour de Macédoine, comme Octavius allait se mettre sur les rangs pour le consulat, il mourut tout à coup. Il avait été marié deux fois, laissé de sa première femme, Ancaria, une fille nommée Octavie, et Datia, sa seconde femme, comme nous l'avons dit, fille de Julie et par conséquent nièce de César, une autre Octavie et Octave. C'est cette dernière Octavie qui épousera Antoine. Le père Datia, et par conséquent le grand-père maternel d'Octave, était Marcus Attius Balbus, qui, du côté paternel, comptait une foule de sénateurs dans sa famille et qui, du côté maternel, était proche parent de Pompée. Il faut de bons yeux pour voir clair dans les généalogies romaines. Octave avait 4 ans lorsqu'il perdit son père. Il était né 63 ans avant Jésus-Christ, sous le consulat de Cicéron et d'Antoine, ne pas confondre cet Antoine avec le triumvir, le 20 septembre, un peu avant le lever du soleil, vis-à-vis le mont Palatin, près des Capita Bubula. Sur cette place s'éleva plus tard un sanctuaire. Presque aussitôt sa naissance, il fut transporté à Velletri. Là, nous perdons un peu le fil de cette grande fortune gagnée par son père. En effet, la maison qu'habite le nouveau-né, malgré les présages qui ont accompagné sa naissance et qui vont le suivre dans sa jeunesse, est loin d'être un palais. La chambre où il fut allaité, dit Suétone qui l'avait vue, est extrêmement petite et ressemble à un garde-manger. Il ajoute que, malgré ce que nous avons dit de sa naissance au Capitat Bubula, on s'obstine à croire, à Velletri, que c'est non seulement là qu'Octave a été nourri, mais aussi qu'il est né. En conséquence, on se faisait scrupule d'entrer dans cette chambre, si ce n'était par nécessité et avec respect. Il existait même une tradition à cet endroit, c'est que ceux qui entraient dans cette chambre avec irrévérence étaient forcés d'en sortir à l'instant même, pris qu'ils étaient d'un subit effroi. Un nouveau propriétaire de cette maison sacrée n'en voulut rien croire et fit mettre son lit dans la redoutable chambre, comme ferait de nos jours un esprit fort qui ne craindrait pas les revenants. Mais, à peine était-il couché, à peine la lampe s'était-elle éteinte, qu'il fut enlevé par une force inconnue, soudaine, irrésistible, et transporté, en dehors du seuil de la porte, dans la rue, où le lendemain matin, on le trouva à moitié mort. Quant aux présages qui avaient précédé sa naissance, les voici. La foudre était tombée sur les murailles de Velletri pendant la grossesse de sa mère. Un oracle prédit qu'un citoyen de la ville parviendrait un jour à l'Empire. Julius Maratus raconte que, vers le même temps, il arriva à Rome un prodige, le narrateur oublie de dire quel prodige, qui fit dire aux augures que la nature enfantait un roi pour les Romains. De son côté, Asclépia de Mendès, dans ses entretiens sur les choses divines, raconte que la mère d'Octave, Attia, étant venue la nuit à un sacrifice solennel en l'honneur d'Apollon, et s'étant endormie dans sa litière au milieu du temple, un serpent y était alors entré et en était sorti un instant après. À son réveil, Attia fit sa toilette comme si, dit le chroniqueur, son mari s'était approché d'elle. Mais elle eut beau répandre sur elle l'eau à profusion, elle ne put jamais effacer l'empreinte d'un reptile que le serpent avait laissé sur son corps, de sorte qu'elle n'osa point aller désormais au bain public. 9 mois après, Octave naquit et Octave passa pour le fils d'Apollon. Le serpent était consacré à ce dieu qui était non seulement le dieu de la lumière et de l'harmonie, mais encore celui de la médecine. Quelques jours avant de mettre Octave au monde, Attia rêva que ses entrailles étaient portées aux nues et remplissaient le ciel et la terre. En même temps, Octavius rêvait que sa femme, après un facile travail, était accouchée du soleil. Voilà pour les présages qui précédèrent sa naissance. Passons à ceux qui la suivirent. Le jour où Octave naissait, on délibérait à Rome sur la conjuration de Catilina. Octavius, retenu par les couches de sa femme, ne put prendre part à la délibération et, gourmandé par ses collègues sur son absence, répondit qu'il n'avait pu quitter sa femme qui venait de lui donner un fils. Il avait fait cette réponse devant Nigidius, célèbre sorcier de Rome, dont saint Augustin parle dans sa Cité de Dieu. Nigidius demanda alors à Octavius à quelle heure précise sa femme était accouchée. Octavius le lui dit. Aussitôt, Nigidius, prenant ses tablettes, fit un calcul astronomique et, le calcul fait, s'écria « Un maître vient de naître au monde !» Plus tard, Octavius, menant son armée dans la partie la plus reculée de la Thrace, eut l'occasion de traverser un bois consacré à Bacchus. Il eut alors l'idée de consulter le dieu sur les splendides destinées promises à son fils. La consultation fut faite avec toutes les cérémonies usitées parmi les barbares. Les prêtres affirmèrent alors qu'après les libations faites par Octavius, la flamme s'éleva de l'autel jusqu'aux fêtes du temple, puis du fête jusqu'au ciel. Or, la même chose n'était arrivée qu'au sacrifice d'Alexandre le Grand. Dans le même lieu, la nuit suivante, Octavius crut voir son fils, d'une grandeur plus qu'humaine, la foudre et le sceptre dans les mains, revêtu des dépouilles de Jupiter, couronné de rayons, porté sur un char orné de lauriers et attelé de 12 chevaux d'une éclatante blancheur. On trouve, en outre, dans les mémoires de Caius Drusus, que la nourrice du jeune Octave, l'ayant mise un soir dans son berceau au rez-de-chaussée, ne l'y trouva point le lendemain, et qu'après une longue recherche, le vit avec étonnement au haut d'une tour et regardant le levant. Il y a plus. Le sommeil de l'enfant avait souvent été troublé par le coassement des grenouilles, coassement qui partait d'un marais voisin de la maison de son père. Mais dès que l'enfant put parler, il ordonna aux grenouilles de se taire, et les grenouilles obéirent. Au même âge, Hercule étouffait deux serpents. Mais Octave n'était pas destiné à être d'Hercule, il se contenta donc de faire taire les grenouilles. À 5 ans, comme il se promenait en mangeant un morceau de pain sur une route de Campanie, un aigle lui arracha brusquement son pain, s'envola à perte de vue et revint doucement le lui rapporter. Après avoir fait la dédicace du Capitole, Quintus Catulus avait eu 2 rêves. Dans le premier, il avait vu une troupe d'enfants jouant autour de l'autel de Jupiter. Jupiter en prit un à part et lui mit dans le sein l'étendard de la République. Dans le second, il aperçut ce même enfant entre les bras du même dieu, et comme il voulait l'en faire retirer, le dieu s'y opposa en disant qu'il élevait cet enfant dans le soutien de la République. Le lendemain, ayant rencontré le jeune Octave, il fut frappé de la ressemblance de cet enfant avec celui dont il avait rêvé. Il n'y avait pas jusqu'à Cicéron l'incrédule, jusqu'à Cicéron qui ne comprenait pas que 2 augures pussent se rencontrer sans rire, qui n'eût aussi fait son rêve à l'égard d'Octave. En effet, il avait rêvé voir un enfant d'une figure distinguée, que l'on descendait du ciel avec une chaîne d'or et auquel Jupiter donnait un fouet. Il racontait ce rêve à ses amis tout en traversant le forum, quand tout à coup, voyant un enfant qui montait au Capitole, il s'écria « Voilà l'enfant de mon rêve !» Et cet enfant était Octave. Lorsque cet enfant avait pris la robe virile, son laticlave décousu tout d'un coup des 2 côtés était tombé à ses pieds, et quelques personnes qui se trouvaient là en avaient conclu que cet enfant donnerait des lois à l'ordre qui portait le laticlave, c'est-à-dire au Sénat. Enfin, lorsqu'il étudiait à Apollonie, Auguste étant monté avec Agrippa, son camarade d'études, dans l'observatoire du mathématicien Théagène, l'entendit prédire à Agrippa un avenir si merveilleux que, ne croyant pas qu'un homme pût atteindre à de plus hautes destinées, il refusait obstinément de l'interroger à son tour, de peur que son horoscope ne fût trop au-dessous de celui de son compagnon. Néanmoins, vaincu par les instances de celui qui, plus tard, devait être son gendre, il consentit à dire à l'astrologue le jour et les circonstances de sa naissance. Mais il n'avait point encore achevé que celui-ci était à ses pieds et l'adorait comme un dieu. De ce moment, Octave eut une telle confiance dans sa destinée qu'il publia cet horoscope et fit frapper une médaille d'argent qui portait l'empreinte du Capricorne, signe sous lequel il était né. Il en résulta que, lorsqu'il apprit à Apollonie la nouvelle de l'assassinat de César et en même temps que celui-ci l'avait nommé son héritier, il n'hésita point un instant et partit pour Rome. Il fallait qu'Octave eût une bien grande confiance dans son horoscope pour venir affronter un pareil danger, car Octave n'était point brave. Son premier mouvement dut être celui de la peur, lui qui avait peur de tout. Il avait peur du chaud et ne sortait l'été qu'avec un énorme pétase. Il avait peur du froid et portait l'hiver des bas de laine. Il avait peur surtout de la foudre et ne pouvait s'empêcher de trembler lorsqu'il tonnait. Or, ce qu'il allait trouver à Rome, cet imprudent enfant, c'était bien pis que le froid, bien pis que le chaud, bien pis que la foudre. C'était 2 ennemis que l'on appelait Brutus et Cassius. C'était un ami que l'on appelait Antoine. C'était contre les premiers une vengeance sanglante à poursuivre, et si cette vengeance ne s'accomplissait pas, c'était la mort ou tout au moins une proscription éternelle. Si elle s'accomplissait, c'était le pouvoir et sa lutte. Dans l'un et l'autre cas, des guerres à soutenir, et en effet, les guerres durèrent 20 ans. C'était des vétérans à satisfaire, de nouveaux soldats à lever, le Sénat à vaincre ou à endormir, enfin, des legs immenses à payer au peuple romain. 300 sesterces à chaque citoyen, mettez 400 000 têtes à 300 sesterces chacune, et vous trouverez en total quelque chose comme 30 millions de notre monnaie. C'était à l'endroit du second, c'est-à-dire d'Antoine, une amitié onéreuse à soutenir. Antoine était dépositaire du testament de César, et tous les jours, il ajoutait à ce testament quelques nouveaux codicilles, tout à son bénéfice. C'était un rude mangeur qu'Antoine, et qui digérait l'or aussi vite qu'il l'avalait. En outre, plein d'expédients ingénieux. Un jour qu'il était à Athènes et qu'il n'avait point d'argent, il eut l'idée d'épouser Minerve et de faire payer aux Athéniens la dot de leur déesse. Il leur en coûta 1 000 000 pour marier la fille de Jupiter aux descendants d'Hercule. Eh bien, Octave n'en partit pas moins d'Apollonie pour venir réclamer cette succession. Pendant les guerres de Sylla, Crassus, envoyé par lui en mission, devait traverser un pays ennemi. « Mais, dit le prudent envoyé, quelle escorte me donnes-tu pour me défendre sur ce dangereux chemin ?»« Je te donne le spectre de ton père assassiné, » répondit Sylla. Octave avait pour escorte, en revenant à Rome, le spectre encore sanglant de César. Deux hommes seulement l'accompagnaient dans ce périlleux voyage, son ami Agrippa et son maître Apollodore de Pergame, que malgré son grand âge, il amenait d'Apollonie à Rome. Mais tout d'abord, les présages le rassurèrent. Au moment où il allait rentrer dans la ville, un arc-en-ciel parut sur un horizon serein, et le tonnerre tomba sur le tombeau de sa cousine Julie, fille de César. Quoiqu'il eût si grande peur du tonnerre qu'il portait toujours sur lui une peau de veau marin pour conjurer la foudre, il n'en reconnut pas moins que c'était un augure heureux et entra hardiment à Rome. Ceux qui virent passer ce maigre et chétif enfant, blême et boiteux, aux yeux grands et verdâtres, brillant d'une lueur étrange, aux sourcils qui se joignaient, au nez aquilin, aux dents écartées, courtes et rouillées, étaient bien loin de soupçonner qu'ils voyaient passer le futur maître du monde.